Et à la fin de cette émission, vous ne regarderez plus votre assiette de la même manière. Les œufs, le lait, les fruits, les légumes ou la viande autour de nos aliments de base. Mes invités ont mené une enquête approfondie sur les méthodes de production du secteur agroalimentaire. Une plongée dans les coulisses de l'agriculture moderne avec la fabrication d'aliments calibrés et programmés au moyen de procédés que nous ignorons la plupart du temps. L'industrie agricole, la toxicologie au cœur du dossier de l'émission avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. À la une de la science aujourd'hui, les écosystèmes méditerranéens menacés par le réchauffement climatique. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, une étude qui nous montre le futur et qui fait froid dans le dos. Sécheresse et canicules sont à prévoir même dans le cas d'un réchauffement maîtrisé. On en parle dans un instant à la une.
Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par François Mercier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? C'est donc un livre qui paraît chez Solar et c'est la question posée dans le dossier de l'émission avec les auteurs de cet ouvrage, la journaliste Isabelle Brockmann et le biochimiste Robert Barouki. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Isabelle Brockmann. Est-ce que l'on plonge facilement dans les coulisses de l'agriculture moderne? C'est facile d'enquêter dans ce domaine?
Il faut être pugnace.
Oui.
Oui, enfin c'est facile d'enquêter. On a accès à beaucoup de chiffres, à beaucoup de dossiers, à beaucoup d'études, à beaucoup de bilans. Et quand on croise, on a les infos.
Ouais, avec un monde de technologie. Hein.
Avec un monde de technologie, avec un impératif absolu à tous les étages, les rendements, et avec tous les moyens modernes au service de ces rendements.
Robert Barouki, est-ce que notre assiette est devenue un assortiment de produits chimiques en tout genre?
Bien sûr, mais à la base, les aliments sont des produits chimiques. Donc, tout n'est pas mauvais dans la chimie. Simplement, on a rajouté toute une série d'additifs, de produits chimiques qui fait que ça se donne un cocktail dont on ne connaît pas encore très bien les conséquences et qui est un grand sujet de recherche actuellement.
Ouais, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, donc franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Et à la une de la science aujourd'hui, le climat en Méditerranée qui risque de changer fortement dans les 50 prochaines années. Sécheresse et canicules vont se multiplier.
Nous n'avions pas véritablement de plan d'intervention d'urgence en pareil cas. Il faut qu'on en prenne les leçons. Il faut qu'on réfléchisse sur la possibilité de revoir de tels phénomènes survenir. Est-ce qu'il y a des conjonctures climatiques particulières qui sont à prendre en compte? Tout ça, on le travaille actuellement avec Météo France.
Et ça, c'était en 2003, à l'occasion de la grande canicule, et c'était Gilles Brucker, alors directeur de l'Institut National de Veille Sanitaire. Les épisodes caniculaires, donc comme celui de 2003, pourraient se banaliser en Méditerranée et survenir tous les 5 ans, d'ici 50 ans. Joël Guyot, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes paléoclimatologue, chercheur CNRS au laboratoire d'excellence OTMED à Aix-en-Provence, et donc vous publiez cette étude climatique prospective autour du bassin méditerranéen dans la revue Science. Quels sont les scénarios pour le futur que vous avez pris comme base de travaux justement de modélisation?
Alors on a pris les scénarios avec mon collègue Wolfgang Kramer qui est co-auteur de l'article. On a pris des scénarios de GIEC, hein. C'est 4 scénarios qui vont depuis le plus optimiste, qui, disons, prévoit un réchauffement qui serait limité à 2 degrés, au moins optimiste, c'est-à-dire on continue comme avant, on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce dernier scénario eh bien, pourrait arriver à une augmentation de température allant jusqu'à 4 et 5 degrés.
Dans un changement climatique maîtrisé, c'est-à-dire 2 degrés, quels sont les changements les plus marquants que vous voyez dans vos algorithmes?
Alors, on a focalisé notre étude sur la végétation. Donc, on a couplé un modèle de végétation qui nous prédit la végétation à partir du climat. Et on a observé on a simulé, en fait, qu'un réchauffement de 2 degrés permettrait de pousser la végétation vers, disons, dans une direction beaucoup plus sèche. Et les changements qui interviendraient n'auraient jamais été connus, en fait, depuis 10 000 ans. Depuis l'Holocène, la période d'il y a 10 000 ans. Et que si on arrivait à maintenir le réchauffement à moins de 2 degrés, c'est-à-dire à 1,5 degré, ce qui est inclus dans les accords de Paris qui ont été négociés en décembre 2015, eh bien à 1,5 degré, eh bien là, on arrive dans le domaine de la variabilité de l'Holocène, et alors on a des situations qui sont un peu plus connues, quoi. Donc vraiment, le seuil de 2 degrés, c'est un seuil qui vaudrait mieux ne pas atteindre si on veut que les écosystèmes méditerranéens ne change pas trop de manière inattendue.
Et est-ce que ces sécheresses concernent tout le bassin ou certaines zones en particulier?
Alors évidemment, il y a des régions où il va faire plus sec qu'à d'autres. Mais en gros, c'est le nord de l'Afrique et l'est aussi, le Moyen-Orient, et également le sud de l'Europe, comme le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie. Ce sont les régions qui seront les plus affectées.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de désertification pour certains endroits ou pas encore, pas dans 50 ans ?
On peut parler de désertification dans le sens où c'est une avancée du désert. Alors, je pense qu'il ne faut pas penser ici à un désert qui serait du sable comme au Sahara. C'est un désert de buissons qui fait une végétation très sèche, comme on en connaît déjà dans certains endroits du sud de l'Espagne, mais là, ce serait généralisé sur toute l'Espagne.
Et ça, c'est dans le cadre du scénario le plus optimiste, Joël Guyot ?
Non, la moitié sud de l'Espagne désertifiée, c'est le scénario le plus pessimiste.
Mmh.
Et dans le scénario optimiste, on peut éviter ça et limiter ce problème à quelques points bien précis dans le sud de l'Espagne ou ailleurs. Alors, mais disons que l'Espagne, ici, ça montre bien, c'est assez emblématique dans l'étude.
Oui.
On l'a vu en Syrie, la sécheresse des années 2000 a causé des migrations de population. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Espagne ou la partie africaine du bassin pourrait être confrontée à ce même genre de problème ?
Ah ben, de toute façon, il y a déjà des pénuries d'eau, en particulier dans l'Andalousie. L'Espagne manque déjà d'eau, donc si l'eau diminue encore, de toute façon, ils ne pourront pas continuer à promouvoir une agriculture qui n'est absolument pas durable, puisqu'elle est basée sur des méthodes tout à fait intensives et qui nécessitent beaucoup d'eau. Et donc là, forcément, il faudra importer de l'eau du nord. Ça, c'est incontestable.
Donc il y a un enjeu extrêmement important autour de la problématique liée à l'eau, Joël Guyot, dans justement ce travail de prospective.
Oui, c'est vraiment l'eau qui est le nerf de la guerre dans ce cas-ci, puisqu'il faut de l'eau. L'écosystème méditerranéen est caractérisé par une sécheresse en été.
Mmh.
Pour vous donner un exemple, dans le sud de la France, on a 3 mois de sécheresse. Et disons qu'avec un scénario tel que celui qui nous augmenterait la température de 2 degrés, eh bien, on pourrait avoir 5 mois de sécheresse. Et donc, plus on va vers le sud, plus la saison sèche va durer. Donc, il faut vraiment, on risque d'arriver dans des situations qui ne sont pas connues, en tout cas dans l'Europe du Sud, et les problèmes d'eau seront vraiment très, très, très forts.
À l'inverse, est-ce que certaines régions vont recevoir plus de précipitations ?
Oui, les régions du nord de l'Europe pourraient recevoir plus de précipitations. Il y a aussi un problème de saisonnalité de la précipitation. Par exemple, même en région méditerranéenne, on pourrait avoir plus de précipitations dans certains endroits, mais cette précipitation arriverait en hiver, et c'est en été qu'on en a besoin. Donc il y a vraiment un problème de distribution au cours de l'année. Et souvent, ces précipitations très fortes qu'on a en automne ou au fin de l'été, elles ruissellent et n'alimentent pas du tout les nappes phréatiques, et elles ruissellent dans les cours d'eau, puis finalement elles retombent à la mer. Donc cette eau-là ne serait pas vraiment disponible pour notre agriculture.
Robert Barouki, vous souhaitez réagir. C'est le biochimiste ou le méditerranéen là, qui a envie d'intervenir ?
Il m'est parfois difficile de séparer les deux. Mais... en tout cas, cette question-là n'est pas du tout indépendante de la question qui va nous occuper tout à l'heure hein, sur l'alimentation. C'est un vrai problème. Donc c'est l'alimentation, les produits chimiques qu'on va rajouter. Tout ça interagit dans notre organisme et il faut avoir une vision très intégrée des choses. Et il se passe là des questions de manque d'aliments, de manque d'eau, qui sont extrêmement importants, et le changement climatique va avoir des effets majeurs sur la santé.
Et je pense que l'agriculture intensive a besoin de beaucoup d'engrais qui est émetteur de... Donc la production d'engrais, c'est émetteur de gaz à effet de serre. Et une des solutions pour essayer de limiter le réchauffement, c'est d'enfouir une partie de ce carbone dans les sols. C'est le programme lancé par le ministère de l'Agriculture qui s'appelle le programme 4 pour 1000. Essayer d'augmenter de 4 pour 1000 l'enfouissement du carbone dans les sols. Et l'intérêt de la chose, c'est que pour y arriver, il faudrait promouvoir une agriculture un petit peu moins intensive et beaucoup plus tournée vers l'agroécologie.
Oui, oui.
Alors, moi, je pense qu'on y gagnerait aussi au niveau de la qualité de l'alimentation.
Merci pour votre transition, pour le sujet qui va suivre, en tout cas, Joël Guyot. Une dernière question, Axel.
Oui, on en parlait en introduction de ce sujet. Les canicules aussi sont dans vos prévisions. Elles seront plus chaudes ou plus fréquentes ?
Non, c'est pas exactement dans l'article, mais... Ce qu'on peut dire sur les canicules, c'est qu'elles sont plus fréquentes. C'est-à-dire, la canicule de 2003 a été tellement extrême qu'on n'en a jamais connu pendant toute la durée des mesures météorologiques. Et donc, si on réchauffe le climat de 2 degrés, on peut estimer qu'on va avoir ce type de canicule une année sur cinq en moyenne.
Oui, c'est beaucoup quand même. Hein,
oui, oui c'est beaucoup. Parce que, bon, alors donc, il y a un gros effort d'adaptation. Ouais. Et si on réchauffe le climat de 3 degrés, eh bien, c'est carrément la moyenne de la température. L'année 2003 va nous fournir la moyenne de la température avec une augmentation de 3 degrés. Donc à ce moment-là, la situation extrême de 2003 devient la norme pour la fin du siècle.
Et ça n'est pas très réjouissant. Merci beaucoup Joël Guyot, vous êtes paléoclimatologue et je rappelle que cette étude est parue dans la revue Science. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, au revoir.
Bonne journée. Au revoir. Et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le démonstrateur Schiaparelli de l'ESA est en 1000 morceaux sur la planète Mars et les images prises par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter montrent la violence du crash. On y voit une traînée noire pour le petit module, deux cratères pour les boucliers thermiques et une ombre blanche pour le parachute, le tout éparpillé sur plus d'une centaine de mètres. Bien que les raisons exactes de cet échec soient encore à l'étude, une piste publiée vendredi dans le journal Science évoque une erreur logicielle dans l'estimation de l'altitude du module. C'est ballot. Votre nez pourrait guérir votre genou. Une nouvelle technique de greffe de cartilage élaborée par des chercheurs de Bâle en Suisse propose d'utiliser le cartilage du nez plutôt que celui de l'oreille pour les greffes. Le principal problème du cartilage du genou ou de l'oreille articulaire est qu'il se reconstitue mal ou très lentement. Et ça n'est pas le cas du cartilage du nez dont les cellules se reproduisent facilement en s'auto-réparant. Elle bénéficie également d'une meilleure élasticité, s'adapte aisément à un autre environnement tel que le genou. Environ 2 millions de personnes par an souffrent de lésions cartilagineuses du genou en Europe et aux États-Unis. Et puis la technique de modification de l'ADN CRISPR sera bientôt sur grand écran. Le magazine Hollywood Reporter dévoile que l'actrice américaine Jennifer Lopez et la chaîne NCS préparent un long métrage prospectif autour de cette technique controversée. Intitulé CRISPR, ce drama d'horreur et de biotechnologie se placerait dans un monde où CRISPR serait tombé entre les mains, entre de mauvaises mains et menacerait l'humanité. Pas de date de sortie annoncée pour l'instant, mais la confirmation que cette avancée dans la génétique fait à la fois peur et rêver. Allez, savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? C'est le thème d'un livre qui paraît. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant, juste après la douce Agnès Obel.
To bring home the old crib with a familiar
extrait de son nouvel album Familiar, Agnès Obel.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Savez-vous donc ce qu'il y a vraiment dans votre assiette ? Une enquête dans les coulisses de l'industrie agricole publiée aux éditions Solar. Je reçois pour en parler ces deux auteurs, Isabelle Brockmann et le docteur Robert Barouki, et les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages et les questions déjà nombreuses sur le site de l'émission. Une investigation, un an d'enquête donc, dans ce milieu de l'agroalimentaire, et puis l'état des connaissances dans le domaine de la toxicologie, avec ces résidus chimiques que l'on peut trouver dans nos aliments. Voilà donc ce qui est au cœur de ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de mener cette enquête? Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir, Isabelle Brockmann?
Je cherchais à découvrir tous les angles morts, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous des informations fragmentées, on sait un certain nombre de choses, on sait qu'il y a des utilisations plus ou moins massives de pesticides, mais on ne sait pas vraiment quoi, comment, pas quand, pas quoi. Et donc moi, j'avais envie de reconstituer la chaîne de A à Z et de trouver des réponses aux questions. Ça commence où et ça se termine au supermarché? Donc la vie de nos aliments, qu'ils soient végétaux et qu'ils soient animaux, depuis la semence ou depuis la naissance, jusqu'à l'abattage, la transformation et la commercialisation.
Jusqu'à notre assiette, donc.
Et jusqu'à notre assiette.
Ouais, donc ce sont les méthodes de production, justement, de l'agroalimentaire là qui vous intéressaient.
Et alors... Pardon, l'agroalimentaire, attends, il faut qu'on s'entende, on ne sait, je me suis intéressée qu'aux produits bruts, aux produits naturels, non transformés, les aliments qui font la base de notre alimentation, et qu'on regarde en général... face auquel on n'est pas très inquiet, on a plutôt confiance.
C'est vrai. Et alors comment on fait pour mener une telle enquête? On s'y prend par quel bout alors exactement? Parce que ce milieu est vaste, c'est quand même une nébuleuse assez incroyable.
Oui, et puis les premiers acteurs éleveurs ou agriculteurs ne sont pas très bavards sur leur méthode, ou en tout cas sur la réalité de leur méthode. En général, quand vous leur parlez, ils vous disent « Oh, moi je mets presque rien, moi je suis presque bio, d'ailleurs je devrais avoir le label, enfin je n'ai pas demandé, mais moi je fais vraiment
bien. » Vous faites bien l'agriculteur en tout cas.
Et puis après, vous tombez sur le chiffre qui vous refroidit un peu et qui vous dit que l'année dernière, l'augmentation d'utilisation de pesticides en France, c'est 9,4%, après deux années à plus 5%, en sachant que les molécules sont de plus en plus puissantes. Donc vous vous dites « Si les gens qui me parlent n'en utilisent pas, qui s'en sert ?» Donc à un moment, on va voir les bilans, les dossiers, les études, tous les documents officiels qui émanent du ministère de l'Agriculture, de l'ANSES, de l'Agence, enfin bon, de tous les organismes chargés de contrôler, etc. Puis alors après, on se penche avec intérêt sur les littératures professionnelles, c'est-à-dire les journaux que lisent les éleveurs de porc, les journaux que lisent les producteurs de pommes, etc. Et puis les instituts techniques qui leur donnent tous les conseils au fil de l'eau, toute l'année, sur quand traiter, pourquoi traiter, etc. Et là, on commence à avoir une vision un peu plus complète et un peu plus globale de la manière dont ça se passe dans nos champs et dans nos élevages.
Et tant qu'à faire, autant se faire aider par un biochimiste également pour mener l'enquête.
Mais la question surgit pratiquement immédiatement.
Pas qu'avec un biochimiste,
Robert Barouki,
si je peux me permettre.
Et toxicologue.
Moi, effectivement, moi j'avais une vue un peu de la toxicologie sur tous ces résultats, mais Isabelle a beaucoup contacté des chercheurs dans le domaine, par exemple beaucoup de chercheurs de l'INRA ou des experts de l'ANSES qui l'ont aidé à différents niveaux à mieux interpréter l'intérêt ou le manque d'intérêt de tel ou tel procédé. Donc il y a, dans l'enquête, il y a aussi beaucoup d'interventions de chercheurs en dehors de
bien sûr. Alors on va voir justement quel est le travail de la toxicologie dans ce domaine, pour savoir un petit peu ce qu'on a dans notre assiette, où on est l'état de la connaissance. En tout cas, ce qui ressort visiblement, Isabelle Brockmann, c'est de ce travail que vous nous proposez, c'est notre rapport au vivant, tout simplement, qui lui aussi s'est beaucoup transformé au fil du temps.
Alors, le nôtre, sûrement, celui des producteurs de ces aliments, on va dire que l'objectif premier, en fait, d'un exploitant agricole aujourd'hui, c'est de mettre le vivant à distance. C'est de le neutraliser, c'est de l'empêcher de surgir, d'advenir, et donc de gripper la machine, trop de pluie, trop de froid, trop de chaleur,
trop
d'herbe, trop de tout. Donc l'idée, c'est de contrôler, de maîtriser la production, et donc mettre le vivant à distance autant que possible, parce que lui est un perturbateur.
Et ça a commencé quand alors finalement, cette bascule et cette entrée dans une nouvelle ère de l'agroalimentaire?
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France a décidé d'en finir avec l'insécurité alimentaire. Et donc, il y avait quatre leviers qui se sont très vite mis au service de la production agricole en France. C'est d'abord la sélection génétique, c'est la mécanisation, c'est la médecine vétérinaire, et puis c'est les produits phytosanitaires. Et tout ça a concouru à aider les agriculteurs et les éleveurs à augmenter leur rendement, leur production de manière considérable. Le blé, on l'a multiplié par 5, le lait produit par les vaches de la même manière, les truies ont 2 mamelles de plus qu'il y a 10 ans, on arrive à produire en haut débit l'agriculture 2.0, l'agriculture d'aujourd'hui.
C'est ça.
Et enfin, affiche des rendements absolument colossaux. Et la France est une grande puissance agricole qui exporte beaucoup,
oui.
Qui nourrit d'abord l'essentiel de sa population, mais qui exporte beaucoup.
Les poules, par exemple, hein, elles pondaient quoi, centaine d'œufs par an avant?
Oui, c'est ça. Ah. Et puis bah, aujourd'hui, elles en pondent le double. Elles pondent pendant un an.
Toute l'année, en fait. Hein,
ça, oui, c'est ça.
Ça n'arrête plus.
On arrive à moduler la lumière pour qu'elles ne se rendent pas compte du changement de saison. On leur permet d'être dans une température constante pour que là non plus, ça n'altère pas la ponte.
Oui.
On les nourrit pour que, etc. Et puis, de toute façon, on ne peut pas en faire grand-chose parce que les pondeuses ont été sélectionnées. Ce sont des pondeuses de compétition qui pondent beaucoup,
c'est ça.
Mais elles sont très maigres, très hautes sur pattes.
Ouais.
Donc, on ne peut pas les transformer en poulet. Donc, en fait, au bout d'un an, elles sont totalement éreintées et elles nourrissent nos animaux, elles fourrent nos raviolis et elles apparaissent parfois à travers un petit manchon dans la paella, toute prête qu'on achète.
Robert Marocchi.
Oui, donc on a privilégié pendant donc très longtemps, d'une part, le rendement, d'autre part, il s'est lié l'absence d'infection. Il fallait lutter contre oui. toutes sortes d'infections. Et donc, on avait une arme. Il faut, quand on pense à ça, accepter le fait que c'était des progrès en termes de rendement et en termes d'éviter de l'infection.
Sécurité sanitaire.
Oui. Mais la sécurité sanitaire était vue principalement sous forme d'infection par des bactéries, par des champignons, etc., que ce soit pour les humains ou pour les plantes. Donc, il y avait cet effort-là. Et on a peut-être un peu négligé les implications et les conséquences de tout ce qu'on utilisait pour ça. Et donc là, on revient un peu maintenant et on se dit... Est-ce que tout ça est si sain que ça? Et est-ce qu'un progrès technologique qui améliore le rendement, est-ce vraiment un progrès de manière plus générale pour l'humanité?
Et puis on voit qu'il y a moins de diversité, moins de variété
bien
aussi.
Bien sûr, donc le manque de biodiversité est assez frappant dans ce qui se passe. Et ça a aussi des conséquences en termes même agronomiques. Hein. Donc c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça a réellement des conséquences et c'est une des conséquences de cette industrialisation.
Oui, Isabelle Brockmann.
Sur le blé par exemple, c'est intéressant parce qu'on a, sélectionné le blé, on a obtenu des blés à très haut rendement. Et ces blés-là, on ne peut pas les cultiver autrement qu'avec la dose massive de produits phytosanitaires, puisque les tiges sont très serrées. Dès qu'il pleut, ça moisit. Mmh. Donc, il faut mettre des fongicides en permanence pour obtenir les rendements promis. Donc, effectivement, les variétés de blé, aujourd'hui, il y a une dizaine d'espèces qui se taillent la part du lion en France. Et ces espèces-là, elles sont toutes prévues pour pousser à grand renfort de produits phytosanitaires.
Voici un extrait du documentaire célèbre de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto.
Je suis sûr que ce soja Roundup Ready est mûr. On va pouvoir le récolter aujourd'hui. La première fois que j'ai entendu parler du soja Roundup Ready, c'était il y a 8 ans dans un magazine agricole. Ça avait l'air d'une innovation très intéressante. Le soja contient une protéine qui a été introduite dans la plante par manipulation génétique et qui la rend résistante au Roundup. Le Roundup est pulvérisé sur les plantes. Cela présente des avantages indiscutables. Si vous observez mon champ, il n'y a pas de mauvaises herbes.
Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, hein, parce qu'ils seront immangeables. Hein.
Voilà, Robert Marocchi, un commentaire sur Le Monde selon Monsanto, sur l'innocuité de ces produits phytosanitaires et puis sur la manipulation génétique.
Alors, on a parlé ici du Roundup, donc et on sait qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. Il y a pas si longtemps, il y a eu plusieurs comités d'experts qui n'ont pas tout à fait donné le même avis. Ce n'est pas nécessairement surprenant. C'est le glyphosate, hein, qui est donc la substance active, sans doute a des effets, mais on n'est pas dans les effets absolument avérés auxquels tout le monde croit. Donc on est encore dans un certain doute, on va dire des effets possibles, peut-être perturbateurs endocriniens, peut-être cancérigènes, mais on est dans le possible. Cela dit, c'est tellement utilisé, que même en présence d'incertitudes, ça mérite quand même qu'on s'y penche et qu'on voit dans quelle mesure il faut réglementer ou restreindre, parce que on est devant un produit extrêmement utilisé. Et plus généralement, dans le domaine donc de ces agents phytosanitaires, on a parfois des certitudes, parfois on est dans l'incertitude, mais en fonction de l'impact possible, il faut savoir aussi prendre des décisions, même dans un contexte d'incertitude.
Ouais, mais alors, justement, demande Marc sur franceinter.fr, comment est-ce qu'on détermine les seuils de toxicité des produits chimiques, par exemple les pesticides ou les fongicides?
Eh bien, on fait, ça passe d'abord par une expérimentation donc chez l'animal, on va utiliser plusieurs doses et on va regarder quelle est la dose la plus faible qui donne un effet. Et on va regarder un effet particulier, par exemple, est-ce que sur le rein c'est toxique ou sur le foie. Bon. Et donc on va prendre la dose la dose qui donne la plus faible qui donne un effet et on va considérer aussi la dose la plus élevée qui ne donne pas d'effet.
Ça plutôt chez la souris en général.
Ça c'est chez les rongeurs, oui, ouais. Bien sûr, c'est là-dessus que l'essentiel de ces travaux sont faits. À partir de là, on va commencer à prendre rajouter des facteurs de sécurité pour dire si chez la souris en utilisant un microgramme je n'ai pas d'effet, ben pour être sûr
on va transposer pour l'homme,
on va mettre 10 fois moins parce que entre une souris et
c'est un problème quand même. Oui.
Bon, et ensuite on va diminuer et donc la dose, le seuil sans effet chez l'homme va être beaucoup plus bas, donc parce qu'on prend des mesures de sécurité, on veut se protéger. Donc a priori on peut penser que c'est les mesures qui sont prises sont raisonnables, ce que malheureusement parfois ce qui se passe, c'est qu'on ne regarde pas nécessairement tous les impacts pathologiques. Deuxièmement, on oublie qu'on n'est jamais exposé à un seul produit, et même dans les phytosanitaires, c'est plusieurs produits, parfois plusieurs dizaines de produits, et voire plus si on rajoute les autres
composants. Donc c'est ultra complexe, évidemment.
Donc c'est plus compliqué que ça, et là, parfois on sait s'en sortir, et souvent on est un peu devant pas mal d'incertitudes, et avec ça, il faut décider.
Allez, on y revient dans un instant avec vous, avec les messages des auditeurs.
Que nos instincts nous poussent à l'instant, tout s'éteint sous le temps. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Je vis et je suis ça mais aussi je vis par terre de terre. Et vu d'en bas la vie ça vient quand on va. Tout dérisoire descend pour voir. Et si l'on sème les corps en avant, oublions bien les croix. Nul homme moral et meurt sans crevant. Je ne veux voir que toi. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Aux étoiles, nature en fait lever une voile. Si toi aussi viens, suis donc avec audace, transpire en plein, sois-en fier. À force de classe, ils vont s'y faire. Viens, ni bien, ni mal, la vie
Les animaux avec Hildebrand sur France Inter. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette séchée Solar? Une enquête donc sur les aliments de base et puis toute la toxicité évidemment. Isabelle Brockmann et le docteur Robert Barocchi sont avec nous. Puisqu'on parlait des animaux avec Hildebrand, beaucoup sont évoqués dans votre livre. Isabelle Brockmann, le cochon 2.0, vous pourriez nous en dire un petit mot parce que c'est assez effrayant. D'abord, vous dites qu'il existait 300 variétés de cochons dans les années 30. Aujourd'hui, 3 souches principales.
Absolument.
Et donc plus de diversité?
Non. Mais ça, c'est la rançon de la sélection, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des porcs, à mettre au point des porcs qui grossissent très vite, qui mangent beaucoup, 900 grammes de prise de poids tous les jours.
Ouais.
Donc en 5 mois, on a un porc qui fait 115 kilos et qui est bon pour partir à l'abattoir.
Ouais. Avec entre-temps une vie d'une tristesse absolue, puisque ce sont des animaux qui grandissent dans des salles blanches.
Oui, dans des tailles blanches, enfin dans des salles blanches, sur des caillebotis, sous lesquelles leur lisier s'accumule et qu'on vide de temps en temps.
Ouais. Dans cette phobie du pathogène en fait, parce que les éleveurs ont peur de cela.
Oui, mais dans un paradoxe très bizarre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lisiers dans les élevages et en même temps pour y entrer, quand on est un humain, il faut mettre des surchaussures, des blouses, se stériliser complètement, parce qu'effectivement, ces cochons sont très fragiles et que dès qu'un pathogène entre...
C'est ça. En fait, ils sont rendus fragiles. À force d'être vouloir protéger de tout, ils sont extrêmement fragilisés.
Oui,
Robert Barocchi.
Si je peux me permettre, quand on sélectionne pour une propriété bien particulière, c'est-à-dire voilà, grossir vite, etc.
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux en général. Ils sont mieux pour cette propriété-là. Par contre, ils peuvent être beaucoup plus fragiles vis-à-vis des infections. Et il y a une relation très nette, d'ailleurs, qui est vraie partout, entre infection et densité.
Ouais.
C'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai tout à l'heure, on a parlé du blé quand on met... Mais il y a une relation absolue. Et donc, on règle ça avec beaucoup de substances chimiques, des antibiotiques, des antifongiques, etc. Et donc, on est dans un cercle en fait, qui n'est pas nécessairement...
L'industrie du médicament vétérinaire est florissante, hein, évidemment.
Elle est florissante. On utilise, d'ailleurs, on utilise plus d'antibiotiques dans les élevages que pour les humains.
Ouais.
Sur les quantités utilisées en France chaque année, la majorité va dans l'élevage.
Ouais.
Et on en utilise énormément, particulièrement dans ce qu'on appelle les phases critiques, c'est-à-dire dans la jeunesse des animaux. Les poussins sont pratiquement tous traités,
les
porcelets à la naissance, les premières semaines, les premiers jours des animaux, compte tenu des conditions d'élevage, on a des antibiotiques à large spectre, on les utilise beaucoup. D'ailleurs, c'est très drôle, les veaux vivent moins de 6 mois et le chiffre officiel, c'est qu'ils reçoivent en moyenne 5,4 traitements antibiotiques en 6 mois de vie. Voilà, les animaux jeunes sont beaucoup traités.
Robert Barocchi, ces médicaments, nous les ingérons, non ?
D'abord, c'est vrai, mais puisqu'on parlait d'antibiotiques, il y a une vraie question de fond qui est la résistance
bactériennes
aux antibiotiques. Et plus on en utilise, plus on utilise des antibiotiques comme ça à large spectre, plus on favorise ces problèmes de résistance. Et ce sont des problèmes qui sont réels pour tous. Hein. C'est un grand problème scientifique.
Et qui sont pris l'OMS, très au sérieux, absolument.
Pris très au sérieux par l'OMS. Donc on est dans quelque chose qu'il faut... Je n'ai pas dit que c'était unique, la seule cause. Hein. Il y a d'autres causes, mais ça peut contribuer. Et donc, il faut là, évidemment, être un peu prudent. Et en plus du fait que, bon, on va les ingérer et puis ça va faire partie de notre cocktail chimique qu'on va subir.
Larry nous dit ceci sur franceinter.fr, de toutes les techniques de l'industrie agroalimentaire, c'est l'appropriation du vivant qui est la plus grave à long terme. Isabelle Brockmann.
Oui, probablement la sélection sur les animaux qui les tord comme ça par croisement pour que pour les adapter toujours mieux aux conditions de leur élevage, la fin totalement de la biodiversité parce que effectivement pour chacune de ces familles de produits, il reste quelques semences utiles qui sont toutes confisquées par les grands groupes. Aujourd'hui, on est presque dans l'illégalité quand on décide de semer des semences paysannes qui font pas partie des catalogues des grands semenciers, on n'a pas le droit.
Ouais.
Donc oui, ça.
Francis nous dit ceci, est-ce qu'on peut voir une relation de cause à effet entre le fait que la France soit le premier consommateur de produits phytosanitaires et qu'elle soit aussi l'un des pays les plus touchés en nombre de personnes atteintes par la maladie de Parkinson, Robert Barocchi?
Alors, la maladie de Parkinson, c'est vrai que chez les agriculteurs, il y a des arguments assez solides pour établir une relation entre l'utilisation...
L'épandage, par exemple, des produits chimiques.
Voilà, l'utilisation de pesticides, donc certains pesticides en particulier, et la maladie de Parkinson. En population générale, on n'en est pas aussi, on n'a pas des arguments aussi solides. Hein. Donc on peut dire que si c'est vrai chez les professionnels, c'est possible que ça joue en population générale, même si on n'a pas encore tous les arguments aussi solides. Il ne faut pas nécessairement penser qu'il y a une seule cause pour une pathologie. Il suffit que ces substances chimiques contribuent à l'augmentation. On ne peut pas imaginer qu'il y a une seule cause.
Mais c'est ça qui est compliqué au fond, c'est que tout est multifactoriel. Donc c'est compliqué de tirer des conclusions simples face à cette problématique quand même.
Vous avez tout à fait raison, c'est un sujet extrêmement difficile scientifiquement, mais ce n'est pas parce que c'est difficile à prouver que le problème n'existe pas.
Bien sûr,
donc souvent, on est obligé de prendre ce qu'on a comme argument et d'essayer de conseiller les agences sur ce qu'elles doivent prendre comme mesure. Et puis donc, on est souvent obligé de décider dans des situations de précaution.
Isabelle Bockmann, sur justement l'association entre les différents produits chimiques, on voit cette complexité aussi dans l'enquête.
Mais en fait, on a trois familles. Les pesticides, il faut se souvenir que ça sert à trois choses. On a des fongicides contre les moisissures et les champignons, on a des herbicides contre les mauvaises herbes, et on a des insecticides contre les insectes. Et que, de toute façon, rien aujourd'hui ne peut être produit à grande échelle sans un usage massif de ces produits. Rien. C'est-à-dire qu'on sait qu'une pomme, c'est 35 traitements minimum.
Oui.
Une pomme de terre, c'est la même chose.
Oui.
Et les deux cultures les plus gourmandes en France aujourd'hui, c'est la vigne et le blé.
Oui.
Le blé, c'est un sixième des territoires agricoles et c'est plus d'un quart de l'utilisation des produits phytosanitaires.
Ouais. Heureusement, il existe encore des lieux où on trouve d'irréductibles Gaulois, justement, qui élèvent et qui, surtout, s'occupent de nous proposer des pommes de terre, par exemple. C'est sur l'île de Bas, à Pleines-Dents, avec Gérard Depardieu, qui a fait son enquête pour Arte.
En fait, ici, ils fertilisent leur terre avec les algues qu'ils ramassent là.
Oui.
Et je crois que c'est un des seuls endroits où on le fait encore, en fait. Ils sont restés sur les traditions.
Mais ils ont quoi comme animaux, là? Ils ont la vache.
Ils ont des chevaux. Je sais pas s'ils ont tellement de la vache. Je crois qu'ils ont beaucoup de chevaux.
Ah bah,
il est là, regarde.
Jean-Pierre.
Viens voir les patates.
Viens voir les patates. Alors ça, c'est quoi comme...
La starlette.
Oh oui, elles sont bêtes, dis donc, Bernard. Oh la vache. Oh là là, elles sont bonnes. Eh, mais la floraison est faite.
Oui, c'est bon, là. C'est bon.
Ah oui, regarde, ça c'est plus tout seul.
T'as vu la terre?
Ah oui, c'est du sable.
La terre, Vera. Je fais que du bio, moi.
Tu mets du fumier de cheval aussi sur tes... Non,
je mets du fumier de cheval et du guémon, c'est tout.
C'est tout.
Voilà.
Pas trop, je mets
cheval. Ah non, mais je mets pas trop de fumier.
Oui.
Parce qu'il faut pas mettre trop, parce qu'après on arrive à avoir des maladies comme le mildiou qui s'y met.
Oui, bien sûr. Ouais.
Faut pas trop azoter, il faut la laisser.
Alors les mains, voilà, ça c'est de la main qui a fait de la patate.
Ah oui, c'est de la main qui a fait de la patate.
Ça c'est des mains, voilà. Il y a boulot là-dedans, tu vois.
Oui, il y a des heures de travail.
Il y a du boulot.
Voilà, la pomme de terre selon Gérard Depardieu, Isabelle Bockmann. Alors ça, c'est ce que vous prenez justement, cette façon de cultiver, par exemple, des légumes?
Moi, je ne prône rien. Moi, je me contente de m'interroger sur les méthodes de production.
Enfin, vous nous indiquez quand même des bonnes façons de faire. On en parlera tout à l'heure, mais...
Les bonnes façons de faire, elles sont, à mon avis, en construction en ce moment. Il y a des vraies recherches en matière agronomique sur le bio intensif, sur les bonnes méthodes, sur la permaculture... Et il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui sont très intéressantes. Et même l'INRA, qui pourtant n'est pas un repère d'écolo très actif, s'intéresse énormément à ces nouveaux modèles, dont la ferme du Bien qui est loin.
On en parlera tout à l'heure dans l'heure. Recherche goût désespérément, l'exemple des tomates, hein, par exemple.
Oui, ou des pommes de terre, il faut quand même se souvenir. Enfin, sur les pommes de terre, la production en elle-même n'est pas très surprenante, c'est la même chose que pour les pommes. On a très peur du mildiou, on a très peur de toutes les formes de moisissures, donc on traite énormément.
Ouais.
En revanche, sur la multiplication des plants, ça c'est quand même un truc, je pense qu'on ne sait pas, que sur les plants de pommes de terre, on pulvérise du pétrole.
C'est ça.
C'est le seul insecticide qui garantisse d'une génération sur l'autre.
Pulvérisation en continu. Et Robert Barouki, justement, parce que vous donnez des conseils aussi dans le livre, hein, sur certains produits de base. Sur la pomme de terre, quel est l'œil du toxicologue, justement?
Bah, c'est, que ce soit sur la pomme de terre d'ailleurs que pour d'autres, le grand problème c'est le mélange de produits. Bon, là on a parlé de pétrole, mais il y a aussi des pesticides. Et la grande question c'est quand on mélange autant de produits, on en a parlé des dizaines, des centaines, voire des milliers, avec tout ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qui se passe in fine? Alors la plupart du temps, c'est une grande question de recherche, mais parfois on a quelques réponses. Et on a des réponses très précisément quand on a des produits qui agissent de la même manière. C'est pas le même produit, mais il agit de la même manière, il peut exercer une toxicité potentielle de la même manière. Et là, il y a des arguments pour dire qu'au lieu de les considérer un par un, comme on fait aujourd'hui pour réglementer, dans ce type de situation, il faudrait additionner les doses. Et là, on aurait une meilleure visibilité sur la capacité toxique de ce mélange.
Oui.
Je voulais faire un autre commentaire quand j'ai entendu tout à l'heure. Ce qui est préconisé n'est pas nécessairement un retour en arrière à la tradition. C'est une véritable science, hein, parce que les gens qui s'intéressent à ces questions, c'est des scientifiques, ils connaissent mieux la Terre, ils connaissent bien la biologie de la Terre, tout l'écosystème dans la Terre, et ils essayent de proposer des choses qui aille dans ce sens-là et qui améliore les choses sans nécessairement rajouter des...
C'est ce qu'on verra avec la ferme du Bec et Loin, exemple que vous citez justement. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs.
Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine. But whatever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't get. Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, can't trust that day.
Monday, Monday, the Mamas and the Papas et Thierry Lupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Allez, on scrute notre assiette avec mes invités Isabelle Brockmann et le docteur Robert Barouki. Ce livre aux éditions Solar, enquête dans les coulisses de l'industrie agricole. Les questions des auditeurs. Jean-Paul demande ceci, Robert Barouki, malgré leur interdiction, les PCB contaminent encore la chaîne alimentaire parce qu'ils sont très stables. Un commentaire?
Les PCB font partie de ce qu'on appelle les polluants organiques persistants et ils méritent bien leur nom parce qu'ils persistent non seulement dans la nature, et dans les rivières, hein, dans les sols, mais ils persistent aussi quand on les consomme, quand ils nous contaminent et ils persistent des années, voire des dizaines d'années dans notre corps. Donc effectivement, ils vont malheureusement être là pendant un certain temps.
Larry nous dit, n'est-il pas pertinent de faire remarquer qu'il y a une concomitance troublante entre la médiatisation de la phobie des résidus et le développement faramineux du faux bio par l'industrie agroalimentaire. Isabelle Brogman, c'est quoi le faux bio?
Bah, le faux bio, ça peut être le bio produit d'une manière industrielle, c'est-à-dire ouais. C'est du conventionnel sans les produits chimiques.
Ouais. Alors, donc, il faut se méfier de ce bio-là en particulier ou pas?
En principe, le cahier des charges du bio, il est le même pour tout le monde.
Avec
quand
un label,
un petit producteur, absolument, ou un gros industriel qui en produit, on doit respecter les mêmes.
Donc, s'il y a un label,
interdits.
C'est que c'est du bio.
En revanche, tout ce qui est autour, c'est-à-dire les conditions de travail, les conditions environnementales, le bilan carbone avec le transport, la conservation, etc. Non, là, on n'a aucune contrainte quand on fait du bio industriel. Donc, le bio industriel, philosophiquement, n'est pas, enfin, c'est un peu une contradiction. En revanche, on a quand même la garantie d'avoir dans nos assiettes des aliments exempts de pesticides.
Ouais. Robert Marouki, les perspectives et les solutions. Alors soyons un peu positifs quand même pendant les 10 minutes qui nous restent à passer ensemble pour ouvrir quelques fenêtres avec un peu d'oxygène, hein, pour se dire qu'il y a quand même des choses à faire.
Mais contrairement à ce que vous pensez, c'est un livre optimiste.
Ah bah oui, c'est ça, alors drôlement.
Il y a quelqu'un qui a dit à propos de ce livre, c'est manger les yeux ouverts.
Oui.
Manger les yeux
mais
ouverts.
Mais manger quoi? C'est le problème. Quand on lit votre livre, on se dit, qu'est-ce qu'on mange?
Eh bien, manger des choses qui sont en circuit court, donc je pense qu'Isabelle en parlera. Manger des choses qui contiennent le moins de substances chimiques rajoutées possibles ou avec des procédés agricoles qui respectent et l'environnement donc et la santé. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qui est souhaitable de faire pour le moment voilà, les solutions elles existent aussi.
Bon, on demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à un consensus scientifique pour dire qu'avec un minimum d'intrants, il est possible d'obtenir des rendements très bons aujourd'hui.
Alors, l'aspect purement agronomique, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas nécessairement ce consensus. Maintenant, il est possible qu'on puisse diminuer. Il y a des agriculteurs qui ne se fixent pas comme objectif de mettre le maximum d'intrants, qui essayent de réduire sans enlever complètement. Donc ça, c'est déjà, je dirais, une avancée. Et puis ensuite, on verra bien ensuite s'il y a des nouveaux moyens plutôt donc de l'agroécologie qui permettent d'aller encore plus loin.
Isabelle Brogman, quelques nuances, hein, apparemment.
Moi, je pense que les agriculteurs sont prisonniers d'un système avec une course au rendement toujours plus. Là, on a levé les quotas laitiers, on est en train de produire, d'exploser les productions de lait dans les élevages et que le système est un système qui piège. C'est-à-dire que plus on en produit, plus il faut en produire, moins on est payé, plus il faut en produire, etc. Ouais. Et que faire baisser l'usage de phyto, c'est peut-être pas pour demain. Ouais. Les pouvoirs publics ont demandé un effort majeur des filières agricoles et on est à plus 9% l'année dernière. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Ouais. Ça marche pas vraiment.
Bon, et vous dites clairement qu'on est à la fin d'un modèle, de toute façon.
Ah, moi, j'en suis convaincue. Moi, je pense que, mais je pense que les citoyens, là, ont tout pouvoir dans les mains. C'est à eux de faire en sorte qu'effectivement, le bio ne devienne pas un bio industriel. Mmh. Et pour ça, il y a une seule solution, à mon avis, c'est aller vers les producteurs. Et ça va exiger deux gros sacrifices, un sacrifice de temps, parce que ça prend du temps d'aller identifier les bonnes pratiques, ceux qui vendent, les marchés de producteurs, etc. On peut plus se contenter d'aller au supermarché, de remplir son caddie et de passer à autre chose. Et la deuxième chose, ça va demander un effort monétaire, un effort financier important. Il y a 40 ans, on consacrait 25% de nos revenus à notre alimentation. Aujourd'hui, on en consacre 12%. Donc, on a décidé de réduire la part de ce qu'on gagne pour nous nourrir. Mmh. Et je pense qu'on a fait une erreur, malheureusement.
Un auditeur nous dit ceci, Ligio, est-ce que le consommateur est prêt à payer le prix des aliments en agroécologie? Tout le monde râle sur les produits industriels et conventionnels, mais quand on propose un produit bio et artisanal au prix rentable pour l'agriculteur, tout de suite, on s'entend dire que c'est beaucoup trop cher.
C'est le vrai prix. C'est le prix, c'est le prix. C'est ce que disent en fait la plupart des experts en agronomie, en biologie. Il faut accepter de manger deux fois moins de viande. On mange un kilo de viande tous les Français toutes les semaines. C'est quand même énorme. On pourrait réduire, diviser par deux, on dégagerait des moyens de manger autre chose et d'accéder à des aliments de meilleure qualité.
Allez, on file ensemble retrouver Perrine et Charles Hervé Gruyer qui ont créé la ferme du Bec-et-Loing en Haute-Normandie, une ferme qui fait aujourd'hui référence en matière d'agriculture naturelle et qui attire des gens du monde entier.
Quatre milieux qui interagissent, qui échangent avec tout un tas de circulations, de biomasse, d'animaux, etc. Alors, ça illustre parfaitement le fait que chaque élément remplit plusieurs fonctions. Par exemple, la forêt-jardin, on a vu son effet brise-vent. Bien sûr, elle produit une abondance de nourriture, de bonnes choses. Elle donne également de la biomasse, la taille des arbres et des buissons, des orties qui viennent nourrir nos animaux, qui viennent nous servir à pailler nos buts de culture.
Et en parlant des animaux, eh bien, ces éléments-là aussi remplissent plusieurs fonctions, puisqu'ils nous donnent leur force de travail. On fait du fumier avec ce qu'ils nous offrent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez sympa de travailler avec les animaux. Éventuellement, ils peuvent manger les résidus de culture. Et en plus, comme nous sommes fermes pédagogiques, c'est toujours d'un attrait majeur que d'avoir des animaux dans un système.
Voilà, extrait de la chaîne YouTube justement de la ferme du Bec et Loin. Pourquoi cet exemple, Isabelle Brockmann, autour de la permaculture? On avait reçu d'ailleurs Perrine et Charles Rigrier.
Parce qu'ils ont prouvé, par la modélisation, par les parcelles sur lesquelles ils ont travaillé avec l'INRA pendant 3 ans, qu'on pouvait faire du bio-intensif. C'est-à-dire, on cultive en fait avec la nature, on met au service de l'agriculture les forces, les puissances de la nature, et on récolte, et leurs rendements sont absolument incroyables. Manifestement, les rendements augmentent chaque année. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Enfin, ouais. Au-delà de...
Et ils font des bénéfices, hein.
Et en plus, c'est un modèle économique. Enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut s'installer pour faire du maraîchage bio selon la formule du Bec et Loin, normalement, on dégage un vrai salaire.
Oui, une ferme d'une taille de 1000 mètres carrés.
Alors, une parcelle de 1000 mètres carrés. Et je crois qu'ils ont dégagé en année 3, 52 000 euros.
C'est ça.
Surtout, ce qui, à mon avis, est majeur pour un maraîcher, c'est que c'était sur 50 semaines. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réussi à dégager 2 semaines de vacances par an. Ce qui, pour un maraîcher, est assez rare.
Ouais. Robert Barouki, c'est la fin des produits chimiques, justement, ce type de modèle, ou
non,
pas?
Non, ce n'est pas nécessairement la fin des produits chimiques. Il n'y a pas d'opposition particulière. Le progrès va dans le sens, peut-être, de fabriquer de nouveaux produits chimiques qui ont des effets, mais simplement, il faut tenir compte de l'impact de ces produits sur les écosystèmes et de l'impact sanitaire potentiel de ces produits. Moi, si on me dit on va fabriquer un produit chimique efficace et en plus qui n'a pas d'impact sanitaire, je serais ravi. Il faut simplement l'inclure.
Christian nous dit, ça fait des années que j'ai arrêté d'acheter des produits industriels. Maintenant, je prends des légumes et des fruits de saison bio chez les producteurs locaux. Et rien de plus simple que de manger sainement pour un budget largement maîtrisé. On va terminer là-dessus avec le titre de votre ouvrage, Isabelle Brockmann et Robert Barouki. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? Et c'est cette enquête dans les coulisses de l'industrie agricole aux éditions Solar. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui dans la Tête au Carré. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour, Mathieu Vidard.
Il est avec nous en direct pour Affaires Sensibles dans quelques instants. Le thème, Fabrice, aujourd'hui.
Nous vous proposons une semaine américaine en commençant aujourd'hui par le massacre de Columbine il y a 17 ans lorsque 11 lycéens et un prof ont été tués par 2 lycéens. Et nous en parlerons avec notre invité Didier Combeau, politologue, spécialiste des États-Unis, auteur de l'ouvrage intitulé « Des Américains et des armes à feu ».
À tout à l'heure.